nous a rejoint Pierre Bessac, qui est donc fondateur d'Eriomem.net, donc un service de stockage, excusez-moi, de fichiers. Mais Pierre, c'est pas simplement ça. Avant de te laisser la parole, Pierre, c'est aussi l'une des personnalités qui a permis l'introduction des systèmes libres en France il y a bien, bien longtemps. L'un des quatre cofondateurs de Gandhi, donc le bureau d'enregistrement de noms de domaine. C'est aussi un développeur de FreeBSD, donc qui est un autre système d'exploitation libre, peut-être moins connu du grand public, mais quand même très utilisé. Donc merci Pierre d'être avec nous.
Bien. Bonjour d'abord, merci beaucoup à vous de me recevoir. Donc je suis très content d'être ici, et en particulier pour parler de la directive copyright. Donc voilà.
Exactement, nous allons revenir sur la directive donc, droit d'auteur, que nous avions longuement abordée lors de la précédente émission. Si vous vous souvenez bien, si vous l'aviez écouté, en fait, il y avait un vote en commission des affaires juridiques du Parlement européen qui devait avoir lieu le 20 juin 2018, donc le vote a eu lieu. Donc Étienne Gonu, mon collègue, va faire un retour sur ce vote et c'est ce qui nous attend en séance plénière ce coup-ci, le 5 juillet 2018. Donc tout simplement jeudi, parce que les choses ont un petit peu évolué et il faut toujours se mobiliser. Donc Étienne, je te laisse la parole.
Merci, tout à fait. Alors pour rappeler peut-être, on va pas refaire effectivement tout le contenu de l'émission qu'on avait, enfin de nos échanges du 5 juin. Pour rappeler, il y a dans cette directive deux points de tension en particulier, l'article 11 qui veut donner un droit d'auteur donc aux éditeurs de presse pour leur permettre de faire payer, voire d'interdire les liens vers leurs articles. On parle souvent là de taxes sur les liens, de taxes link pour décrire cette idée. Et pour ceux peut-être qui s'intéressent à ces sujets, on se rappellera qu'en Allemagne ou en Espagne, ils ont tenté des législations similaires et que le résultat a été catastrophique, et notamment pour la presse, qui a eu de grosses, qui s'est coûté beaucoup d'argent. L'autre point de tension et qui nous a concerné plus directement, l'article 13, qui en gros veut rendre les plateformes responsables des contenus que leurs utilisateurs et utilisatrices vont mettre en ligne, et pour ce faire, de leur imposer la mise en place de filtres automatisés. Donc pour résumer, l'article 13 serait le filtrage généralisé des contenus mis en ligne, et l'article 11, l'instauration d'un droit voisin pour les éditeurs de presse. Comme je vous ai dit, nous, on s'était consacré à l'article 13 parce que, dans un premier temps, il faut quand même se rappeler que le code source relève du droit d'auteur, il est soumis au droit d'auteur, et que les forges logicielles, en tant que plateforme, étaient donc concernées, dans un premier temps, par cette directive. Donc nous, c'était un peu le centre de notre mobilisation, c'était de nous assurer que les forges seraient exclues du champ d'application.
Tiens, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est une forge logicielle ?
Alors, bien sûr, alors les forges logicielles, ce sont donc des plateformes où les développeurs et les développeuses peuvent mettre en ligne leur code, le partager et construire ensemble des logiciels. C'est typiquement des plateformes de collaboration et de partage de contenu. C'était la bonne nouvelle. Tu parlais du vote du 20 juin. Alors effectivement, c'est l'étape normale. D'abord, avant de passer, quand ça arrive au Parlement européen, c'est la commission, ce qu'on appelle la commission au fond, qui va saisir du dossier. Et dans le cadre de cette directive, de fait, c'est la directive affaires juridiques, la commission jury qui se saisit de ce dossier. Il y a eu une forte mobilisation et pour le coup, elle a eu du succès sur ce point-là. Car effectivement, les forges logicielles ont été sorties du champ d'application. Donc ça, c'est à l'article 2. En fait, on voit d'ailleurs, et c'est assez significatif de l'usine à gaz qui est ce texte, à chaque mobilisation qui a réussi à faire suffisamment de bruit, le résultat a été une exclusion spécifique du périmètre. Donc c'était le cas pour les forges logicielles libres. Wikipédia a également été sorti, et encore heureux, du champ d'application du texte. Et il y a d'autres typologies de plateformes qui ont été sorties, mais il n'y a pas de corrélation entre ces différentes plateformes, si ce n'est qu'à chaque fois, il y a une mobilisation suffisante pour obtenir ce résultat. Donc le 20 juin, que s'est-il passé ? L'article 11, malheureusement, et l'article 13 ont reçu un vote favorable. 15 votes contre 10 pour l'article 13 et 13 contre 12 en faveur de l'article 11. Donc effectivement, c'est un résultat décevant, mais ce n'est pas fini. Alors comme tu disais, il y a effectivement un vote à venir le 5 juillet. Alors on peut peut-être préciser, ça c'est l'étape normal, après en commission, en fait, il faut savoir que le texte a été voté, les articles 13 et 11 notamment ont donc été votés. Ce n'est pas la seule chose qui a été votée. En fait, à l'occasion de ce vote, la commission jury, pour le Parlement européen, a donné ce qu'on appelait un mandat au rapporteur sur le texte afin qu'il porte ce texte dans ce qu'on appelle le trilogue. On avait un peu expliqué ce que c'est. Donc, dans le processus, on va dire, normatif, normal d'une directive, la Commission européenne a proposé un texte. Là, elle l'avait fait en septembre 2016. Puis, de son côté, le Parlement européen, par une commission au fond, va retoucher le texte, il va faire sa propre proposition. Le Conseil de l'Union européenne, composé des représentants des États membres, c'est une forme de Conseil des ministres, va faire de même de son côté. Puis, sur la base de ces textes, il va y avoir des négociations à trois voix, donc un trilogue, qui va aboutir à un texte final qui, en fin de parcours, sera acté par le vote au Parlement européen. Donc là, théoriquement, là, le texte, il était acté, et c'est sur ce texte que le rapporteur, Axel Voss, a un mandat pour porter et discuter ce texte. Des voix, alors, notamment par l'entremise de Julia Reda, qui est membre du groupe des Verts européens, et qui est très active sur ces sujets-là, et qui, depuis le début, s'oppose à ce texte liberticide, porte ce qu'on appelle une motion. Alors, c'est une procédure qui est prévue... alors, l'article 69, me semble-t-il, du règlement intérieur, qu'importe, on vous a mis, alors on a traduit, la campagne Save Your Internet a publié un court billet pour résumer un petit peu ces procédures, on a traduit ce texte en français, le lien sera disponible sur april.org. Donc en somme, si 76 parlementaires se mettent d'accord, ils vont déposer une motion qui va être votée. Et si cette motion est votée à majorité, eh bien le texte sera rediscuté en session plénière. En gros, ça remet en cause le mandat, ça rejette le mandat qui a été donné. Et donc ça réouvre le champ à des amendements, puis voilà, pour qu'un nouveau mandat soit déposé. Donc c'est tout l'enjeu du 5 juillet, c'est le rejet de ce mandat qui a été donné.
Ouais, donc pour comprendre, pour les personnes qui ont plus l'habitude de suivre les procédures parlementaires françaises où en commission on vote sur un texte et des amendements et qu'ensuite en séance plénière on revote sur le texte et sur des amendements. Là, en l'occurrence, suite donc au vote de la commission des affaires juridiques, en gros, il y a eu des amendements qui ont été votés, certains positifs, mais globalement quand même le texte reste à rejeter. Et il y a eu donc un mandat de négociation qui a été voté donc pour le rapporteur de la commission jury. Et ce qui se passe là en séance plénière, c'est qu'on ne va pas rediscuter des amendements, de nouveaux amendements sur le texte. Normalement, il ne se passe rien, c'est-à-dire que le mandat a été voté, sauf si 10% des parlementaires européens, donc 76 sur 751, déposent une motion pour soumettre au vote du Parlement européen le fait de donner mandat, effectivement, à la commission jury pour aller négocier avec les autres partenaires, donc le Parlement, le Conseil et la Commission. Et donc là, l'enjeu, pour l'instant, le premier enjeu, c'est d'avoir que ces 76 parlementaires déposent ce recours. Et si ce recours est déposé, a priori, il sera soumis au vote jeudi 5 juillet. Et là, il faudra évidemment une majorité de parlementaires pour dire non, nous ne voulons pas donner ce mandat. Nous voulons revenir sur le texte et discuter pour, si possible, améliorer ou peut-être le repousser s'il n'est pas possible d'être amélioré.
Tout à fait. On peut déposer un amendement qui appelle à la suppression de l'article. Ça se voit assez régulièrement, que ce soit au niveau européen ou français. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur le 10%, on sait de sources sûres, ça ne surprend pas particulièrement, mais c'est rassurant de le savoir, que normalement, les 10%, ce nombre de 76 a été atteint. Donc, une motion devrait bien être votée. Et donc là, à nous aussi d'être en mesure de nous mobiliser pour convaincre au moins 50% des parlementaires européens de soutenir cette motion, de voter le rejet de ce mandat, au moins voilà, que le texte soit soumis au débat qui devrait du coup se dérouler en septembre, si la motion est acceptée.
D'accord. Donc ça, c'est la procédure. Donc, pour que les gens comprennent bien, ça change aussi l'argumentaire qu'on peut apporter, parce qu'en fait, vous avez des parlementaires qui peuvent se dire, même si l'article 13, par exemple, est dangereux, globalement, on est en faveur de la directive, donc on va refuser de rejeter ce mandat, alors qu'avant, c'était amendement par amendement, article par article. Donc ça différencie un petit peu la discussion avec les parlementaires, et on peut même dire que certains groupes parlementaires sont divisés, parce qu'ils considèrent que globalement, la directive va dans le bon sens, alors même que certains articles pourraient effectivement être revus et corrigés. Donc là, c'est la situation juridique, on va dire. Donc le 5 juillet, a priori, il va y avoir un vote sur ce sujet-là. Donc il faut toujours agir pour exprimer nos inquiétudes, notamment sur la question évidemment de l'article 13 et du filtrage. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a invité Pierre Bessac, qui, comme je le dis, fréquente Internet depuis des années et des années, et qui a publié récemment un billet explicatif sur le filtrage.
Bah, tout à fait. Simplement rappeler, alors c'est vrai que le 5 juin, donc on avait parlé de ça, avec en permis de mire à cette époque, donc le vote du 20 juin. Ce qui a été intéressant, c'est que bah, entre l'enregistrement de cette ancienne, première émission et puis la tenue de ce vote, on a quand même vu une mobilisation s'intensifier et devenir quand même assez très forte, à un point d'ailleurs que les détracteurs de cette mobilisation accusent les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, bon, surtout Google, hein, on voit bien que c'est ça qui est en ligne de mire, mais de manipuler cette campagne derrière les rideaux, enfin, bon, c'est assez risible malheureusement, mais bon, ça peut avoir... donc voilà, donc ça fait peur. Donc comment, quelles réactions ça fait peur? Donc une grande mobilisation. Je pense qu'il est intéressant de citer deux éléments de cette mobilisation qui ont été assez marquants. Une lettre ouverte qui a été signée le 12 juin et qui a été publiée sur le site de la EFF, l'Electronic Frontier Foundation. Le titre étant que plus de 70 sommités sonnent l'alarme sur le filtrage automatisé. Alors je n'ai pas voulu citer les 70, on peut quand même voilà, mentionner Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, Jimmy Wales et Catherine Maher, respectivement cofondateurs et directrice exécutive de la Wikimedia Foundation. Il y a le directeur du MIT Media Lab, Bruce Schneier, hein, un des plus grands spécialistes de la cryptologie, enfin, voilà, des gens de cet acabit-là qui ont sonné l'alarme. D'autre part, également, une lettre de David Kay. Alors, David Kay, il est tout simplement rapporteur spécial pour les Nations Unies sur la liberté d'opinion et d'expression. Il a écrit à la Commission européenne pour s'inquiéter des conséquences du texte qu'il considère disproportionné dans ses atteintes à la liberté d'expression. Et Fred, comme tu le disais, il y a aussi eu des mobilisations en France, notamment donc celle de Pierre Bessac, qui a fait un excellent billet. Alors, à titre personnel, ou du moins pour l'April, merci, car quand je, dans ma mobilisation en tant que chargé de mission à la part publique, je contactais par mail, par courriel et par téléphone des députés, et ce texte m'a beaucoup aidé, notamment parce qu'il était difficile de dire, regardez, là, ce n'est pas les grandes plateformes qui poussent, c'est des professionnels du logiciel libre, c'est des professionnels d'informatique, c'est des militants de longue date, des gens qui savent de quoi ils parlent. Et donc, c'était aussi intéressant, car c'est un des grands sujets qui était au centre des discussions, c'était est-ce qu'il y a bien filtrage et en quoi les filtrages sont dangereux. Et voilà, donc peut-être tu peux nous parler de ce qui t'a poussé à écrire ce billet et ce que tu as voulu exprimer dedans.
Alors d'abord, merci beaucoup Étienne pour ton retour et tes explications. Et je suis très touché de savoir que mon texte a servi à quelque chose. En fait, c'est pas la première fois que j'appelle des parlementaires pour différentes lois, les lois renseignement, les choses comme ça. Je sais que un peu toutes les formes de mobilisation sont utiles, donc de la pétition, de signer une pétition, ça a un petit effet, mais on a vite un effet de masse. Par exemple, je crois qu'il y a une pétition sur change.org qui a dû dépasser les 700 000 ou 800 000 ces derniers jours, contre donc les articles 11 et 13. Et j'ai déjà effectivement appelé des parlementaires. J'ai jamais eu la chance d'avoir directement un parlementaire lui-même, mais j'ai en général, au mieux, on tombe sur l'assistant, l'assistante. Et donc, c'est quand même toujours bien d'avoir un argumentaire personnel à développer plutôt que de répéter des choses en boîte qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, de se faire sa propre idée à son propre niveau. Et les argumentaires que j'avais vus étaient très juridiques, donc ils étaient très intéressants, en particulier ceux de Julia Reda. Mais moi, j'ai voulu faire un argumentaire à ma sauce de techos de l'Internet, quoi, voilà. Donc j'ai un petit peu démonté le texte, j'ai regardé un petit peu, sachant que, effectivement, comme tu l'as dit, le texte, enfin mon billet, je l'ai écrit avant le vote en jury, quelques jours avant, en fait, parce que je me suis pris assez tard. J'ai suivi d'assez loin les débats sur le sujet. J'avais vu l'épisode GitLab, lorsque GitLab a fait son appel pour dire que...
Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est GitLab ?
Ah pardon, excuse-moi. Oui, donc,
c'est GitLab, c'est une... qui a fait l'appel.
GitHub, excuse-moi, oui, c'est tout à fait. Donc GitHub, c'est une source, une forge logicielle, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et qui est semi-commercial, on peut dire, mais qui est très prisé par les gens qui écrivent du logiciel libre et qui a formé toute une communauté et qui donc risquait d'être sévèrement impacté par la version initiale de la directive, de l'article 13, et donc qui a obtenu une exemption. Donc moi, j'ai vu passer ça. L'exemption a donc été votée, si j'ai bien compris, lors de la commission jury le 20 juin. Mais ce que je n'avais pas compris, enfin ce que je n'ai vu qu'assez tard, c'est que je pensais que l'article 13 allait sauter beaucoup plus rapidement que ça, en fait, parce que c'est quelque chose d'assez énorme quand même, et que la mobilisation était suffisante pour écarter les risques qu'il comporte. Mais en fait, comme l'a très bien expliqué Étienne, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des exclusions ponctuelles, donc celles demandées par GitHub, les exclusions pour Wikipédia. Il y a une exclusion également pour les sites de vente en ligne d'objets physiques. Donc les sites type eBay n'ont pas envie de, enfin, ont réussi à éviter d'avoir à mettre un filtre sur les copyrights des photos des objets vendus, ce qui paraît être la moindre des choses. Mais ce qui veut dire aussi que si par exemple GitHub n'avait pas existé, ou s'il n'y avait eu aucune forge logicielle militant pour exclure les forges de l'article 13, elle serait touchée sans même qu'on le sache, puisque le concept n'ayant pas été inventé. Enfin, ce que je suis peut-être pas très clair, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de, avec des exclusions ultra ponctuelles, on est en train de se couper de tout un tas de potentiels usages futurs qui vont être tués dans l'œuf parce que, pour citer l'étude d'impact elle-même, donc là, c'est pas un chiffre que je sors de mon chapeau, le coût d'un service de filtrage a priori de contenu, c'est environ 900 euros par mois pour 5 000 transactions. Donc ça correspond à un service réel qui, tel que j'ai compris, est états-unien. Enfin, il c'est facile à retrouver, il est cité dans l'étude d'impact de la directive. Mais donc ça représente un coût d'environ 20 centimes d'euros par transaction. Donc inutile de dire qu'un petit réseau social qui veut se monter n'est pas en mesure de payer 20 centimes d'euros pour chaque commentaire ou chaque photo postée pour ses utilisateurs, et ça, qu'il soit à but non lucratif ou à but commercial. Ce qui s'est passé aussi le 20 juin, c'est qu'apparemment il y a eu une exclusion des sites à but non lucratif, tel que j'ai compris les amendements, mais alors vous me détromperez peut-être. Dans les am
C'est un peu la difficulté. Ce texte est par ailleurs assez mal écrit, ce qui fait qu'effectivement il est difficile de se rappeler de tout ce qui est spécifiquement sur les forges. Dans un premier temps, c'était seulement les forges à but non lucratif, et c'est parce que la mobilisation était suffisamment forte pour expliquer et se faire entendre de dire que d'exclure les forges qui seraient uniquement à but non lucratif ne servirait à rien, notamment parce que c'est tout un équilibre économique qui fait que c'est aussi en fournissant des services, par exemple dans le cas de GitHub, des services payants, que d'un autre côté il y a aussi des activités non lucratives qui sont disponibles. Donc on voit que c'est tout ça que ça a été, comme ces manières-là que ça a été écrit. Dans le cas de Wikipédia, je crois que c'est plus pour eux qui sont concernés dans cet aspect non lucratif. Alors la liste exacte des exceptions, je l'ai pas en tête.
Alors la formulation est assez ambiguë parce que, alors là j'ai le papier, mais je vais peut-être pas vous le lire, surtout que c'est la version anglaise. Mais tel que c'est rédigé, ça parle de sites non lucratifs, non-profit, tels que par exemple les encyclopédies en ligne.
Oui, c'est
Alors,
ça.
Wikipédia est donné, enfin, Wikipédia n'est pas cité, mais l'encyclopédie en ligne est donnée comme exemple. Mais juridiquement, est-ce que ça ne cadre pas un peu le. Est-ce qu'un site non lucratif d'un autre type, similaire mais pas identique ou complètement différent, va être touché ou pas? Bon.
C'est un peu le problème de définir enfin de lister des exceptions, parce qu'en fait, ils sont partis d'un principe de viser un certain nombre de services très très larges, et ensuite, suite à la mobilisation et suite à des explications disant, bah oui, les forges de logiciels libres vont être touchées, Wikipédia va être touchée, etc., on rajoute des exclusions. Et effectivement, un, juridiquement, on ne sait pas si ça va tenir, et puis effectivement, de rajouter des exclusions, ça ne fonctionne pas. En fait, il faudrait plutôt définir exactement ce qui est visé, très clairement, ou voire ne rien faire du tout. Plutôt qu'effectivement de mettre en place ces exclusions. Et c'est pour ça d'ailleurs que même si les forges logicielles ont été exclues du dispositif de l'article 13, on continue à se mobiliser, parce que ça ne veut pas dire que le logiciel libre n'est pas touché. Par exemple, Peertube, qui est un outil de partage de vidéos décentralisé que poussent nos amis de Framasoft, pourrait très bien être touché par cet article 13, donc il est important de se mobiliser. Alors, ce qui était un point intéressant dans ton article aussi, c'était que tu revenais sur cette question du filtrage, qui semble être le mot tabou chez la plupart des gens qui sont pro-article 13, en disant « mais non, le filtrage n'est pas marqué dans le texte », alors qu'en fait, il est clairement question de filtrage. Est-ce que tu peux pour revenir un petit peu rapidement, pas trop longuement, mais en tout cas, pour expliquer les différents types possibles de filtrage qui existent aujourd'hui et en fait leurs limites aussi?
Tout à fait. En gros, on peut considérer qu'il y a trois types de filtrage a priori. On a le filtrage par fichier identique, donc c'est ce qu'on appelle les résumés crypto ou les checksums. C'est assez fruste et ça peut servir dans certains cas, mais c'est très facile à contourner, donc ce n'est pas extrêmement efficace pour protéger des œuvres copyrightées.
En fait, il suffit légèrement de modifier le fichier pour que finalement l'empreinte change et donc voilà. Ça ne fonctionne pas.
Oui, on modifie même un bit du fichier, rien du tout. Et puis alors, a fortiori, quand on réencode le fichier dans un autre format, c'est la même chose. Voilà. Donc c'est extrêmement facile à contourner. Donc en général, ce que font les YouTube et compagnie, c'est qu'ils ont des systèmes beaucoup plus complexes qui connaissent et comprennent le format du fichier concerné et qui en extraient les informations pertinentes pour être capable de reconnaître tel contenu audio, telle image, quel que soit le format sous-jacent et même avec des modifications mineures. Le problème, c'est que ces systèmes sont très propriétaires, donc on ne sait pas du tout comment ils fonctionnent de l'extérieur. Il n'en existe aucune implémentation libre, évidemment. Il fonctionne sur une base qui doit être remplie par les ayants droit qui fournissent des œuvres types. Et au final, on peut même éventuellement, ça peut peut-être fonctionner en ce qu'on appelle l'apprentissage profond, c'est-à-dire les réseaux de neurones, mais avec des résultats encore plus aléatoires sur la détection. Et donc, on ne sait pas exactement quels vont être les résultats en termes de faux positifs, donc des œuvres, enfin des contenus qui ne sont pas en infraction, mais qui vont détecter comme l'étant incorrectement, ou faux négatifs, et donc des contenus qui devraient être détectés comme étant en infraction, mais qui vont passer à travers. Et par ailleurs, en particulier sur les faux positifs, ça pose la question des mèmes, qui a donné lieu à un certain nombre d'articles en France.
Est-ce que tu peux expliquer ce que sont les mèmes ?
Alors les mèmes, je prends une image de OSS 117, par exemple, et puis je mets une déclaration de Macron dessus, au hasard. Il peut très bien se produire que les ayants droit de OSS 117 n'aient pas envie que les extraits du film soient utilisés d'une façon détournée sous forme de parodie.
Bon, c'est marrant que tu prennes cet exemple-là, parce que le réalisateur d'OSS 117, c'est Michel Azavendisius, qui a été célèbre pour faire un de ses premiers films basé sur des reprises, c'est le grand détournement de films de la Warner dans les années 90, je crois.
J'ignorais cet élément, d'accord, c'était d'autant plus intéressant, effectivement. Donc ce qui risque de se produire, c'est qu'il y ait des filtrages abusifs sur les mèmes qui empêchent un utilisateur de poster sa parodie, alors que la loi lui donne un droit d'exercice de parodie. Parodie, mème, etc. Voilà.
Ouais, parce que là, en fait, ce que tu expliques, et je vais relaisser la parole à Étienne, c'est qu'en fait, finalement, ils veulent mettre en place des robots de filtrage. Donc là, tu citais tout à l'heure, quand tu parlais du filtrage par... je ne sais plus quel terme tu as employé. Tu parlais de Content ID, notamment de YouTube.
Oui, par similarité.
Par similarité, je ne me souvenais plus du terme. Ces robots, en fait, vont remplacer finalement la loi, ce qui est strictement impossible. Et donc, le résultat, effectivement, c'est qu'il y a des vidéos qui vont se faire déréférencer, supprimer, sans qu'on puisse finalement intervenir, sauf éventuellement aller tenter de faire valoir son droit devant un juge. Donc, quelque chose de très, très, très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on dit clairement que c'est un filtrage, c'est de la censure. Étienne ?
Alors là-dessus, moi, je voulais aussi rebondir, parce qu'effectivement, une des campagnes qui a fait pas mal de bruit, notamment, et je pense parce qu'elle a un côté assez fun, hein, c'était Save the Meme, donc, qui était, voilà, les mèmes sont en danger, souvent les mêmes pensées, il faut se mobiliser. Et ça a été aussi, du coup, en réaction, et ça faisait partie de ce discours « non, il n'y a pas de filtre », les défenseurs de l'article 13 nous disons « bien sûr qu'on ne veut pas s'attaquer aux mèmes, l'article 13 n'interdit pas les mèmes ». Et au cœur de leur argumentaire, c'est de dire « non, mais ça ne touche pas à l'exception, les exceptions de droit d'auteur continuent à exister et sont encore protégées ». Pour moi, ça évoque deux choses. Déjà, d'une part, effectivement, il y a des exceptions, alors ça reste des exceptions au droit d'auteur, et il faut savoir que c'est pas un droit qui est harmonisé, donc chaque pays va avoir sa propre manière d'appréhender ce que va être de la parodie, de la citation, et est-ce que ça relève bien d'une exception légitime. On sait très bien comment va marcher, au niveau d'un marché européen, d'un marché unique numérique, puisque c'est ça qu'ils essayent de défendre, numérique, on imagine bien que les services vont s'aligner sur le plus restrictif pour limiter le risque, pour assurer leur sécurité juridique. Donc si la parodie est interdite dans un pays, on va s'aligner sur ce pays-là, en caricaturant un peu. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est au cœur de leur discours, et ils disent, regardez, dans l'article 13, on dit bien, il faut que les plateformes assurent un moyen de recours aux personnes dont le contenu sera bloqué alors qu'ils ont mis du contenu légitimement, que ça peut relever par exemple d'une exception. Déjà, on imagine bien le temps que ça peut prendre, mais ça veut surtout dire que c'est la plateforme qui sera, dans ce cas, la juge de la légitimité du moyen d'expression établi. C'est elle qui va décider, dans le cas d'un mème, si effectivement ça relève bien de la parodie. Moi, je ne trouve pas ça acceptable que la liberté d'expression, parce que l'exception de droit d'auteur, et c'est déjà là contestable que ce soit juste une exception alors que c'est une des garanties de la liberté d'expression. Que cela dépende finalement voilà, d'un recours auprès d'un opérateur privé. On sait d'ailleurs très bien ensuite d'ailleurs que un amateur, quelqu'un qui va mettre ce mème-là, son contenu va être bloqué. Est-ce qu'il va vraiment aller s'embêter à aller attaquer la plateforme, sauf s'il est militant un petit peu ou qui ou elle à cette, enfin voilà, cette fibre-là. Mais sinon, la plupart des gens vont s'autocensurer et accepter de laisser passer. Donc on est aussi dans c'est assez emblématique. Ce truc sur les mèmes peut paraître accessoire, mais en fait, il est assez emblématique. Enfin, c'est tout ce que je leur
D'ailleurs,
réponds.
oui, en fait, Julia Reda l'explique très bien dans son argumentaire, c'est que le fait de pouvoir contester ne garantit rien, parce que les plateformes vont se trouver dans une situation où elles auront tout intérêt à bloquer, enfin à surbloquer, à bloquer plus que nécessaire pour ne pas risquer d'ennui vis-à-vis des ayants droit et du copyright, même dans les cas où elles seraient protégées. J'ai même vu, j'ai même vu des gens ce matin qui râlaient sur Twitter parce que un article de presse avait été cité, mais juste deux paragraphes, ce qui était a priori du droit de citation, mais qui n'avait pas l'air de leur convenir. Donc, on voit qu'il y a une interprétation assez subjective de la chose d'une part, et que d'autre part, les plateformes n'auront absolument aucun intérêt à prendre des risques en la matière. Effectivement.
Et c'était aussi un des risques pour les plateformes d'échange de code source, effectivement, c'est que à la fois les plateformes ne voudraient pas prendre de risque, effectivement, d'avoir un téléversement de contenu éventuellement soumis à droit qui interdirait ce téléversement, mais également les contributeurs et contributrices n'ont pas forcément envie de se considérer par défaut comme des contrefacteurs, alors qu'en fait, ils téléversent un contenu pour lesquels ils ont les droits. Donc, effectivement, on met un principe de précaution monstrueux qui fait qu'effectivement, au-delà même des actions de ces fameux robots filtrants, robots copyright, il y a effectivement la limitation préventive finalement des plateformes. Moi j'avais aussi une question, tu as dit donc que tu avais contacté des eurodéputés, des parlementaires et que tu avais eu principalement leurs collaborateurs ou collaboratrices. Alors c'est souvent le cas, hein, c'est souvent rarement le parlementaire qui répond directement, mais c'est pas inquiétant parce que finalement les collaborateurs sont aussi là pour faire ce travail-là d'analyse, de rédaction, d'argumentaire, de compréhension. Quand tu as eu ces personnes, est-ce que tu as senti une compréhension du sujet, et quels sont les arguments clés qu'on t'a opposés, finalement, pour te dire, finalement, l'article 13, c'est le bien.
Alors en fait, on ne m'a pas opposé d'argument.
Ah.
Dans un cas, on m'a dit, de toute façon, le parlementaire compte voter contre l'article 13. Donc voilà,
non, dans ce
c'est pas
cas-là.
la peine d'insister. Et dans un autre cas, ça concernait un parti qui venait juste d'être bloqué par YouTube dont le compte venait d'être fermé par YouTube en raison d'utilisation d'extraits d'actualité. Donc là encore, a priori, c'est du droit de citation. Et qui donc était en train de faire campagne pour trouver que c'était une censure inacceptable. Mais parallèlement, le parlementaire, enfin l'assistant du parlementaire que j'ai eu m'a expliqué que son député comptait voter comme la chef de file du parti en la matière, c'est-à-dire en faveur de la directive.
Là, tu parles
Et
du
de...
parti Front National.
Oui, c'est ça, le Rassemblement National, je crois, maintenant. Voilà,
Alors oui,
exactement.
et donc je ne me souviens plus du nom de la parlementaire européenne, mais effectivement,
Moi non plus, je suis
c'était
désolé,
assez
mais
marrant.
charmant.
Marie-Christine Boutonnet.
Alors voilà, Marie-Christine Boutonnet, parce que c'est vrai que nous aussi, on envoyait des messages. Et c'est vrai que c'était assez marrant de les voir hurler sur effectivement ce qu'ils appelaient cette censure, et puis d'un autre côté, vouloir voter pour quelque chose qui allait automatiser cette censure. Bon, c'est des fois l'absence de cohérence des parlementaires, donc visiblement on a eu la même personne, en tout cas le même cas. Donc ça, c'est effectivement. Et on a bien vu que dès que d'ailleurs l'article 13 a été voté, Marie-Christine Boutonnet et d'autres parlementaires du même acabit ont diffuser directement un communiqué de presse pour se féliciter de ça et ne pas avoir conscience de l'opposition avec ce qu'il reprochait en France, en fait.
Alors, à cet égard, d'ailleurs, il faut noter que ça peut être intéressant de se renseigner sur les positions des parlementaires qu'on veut appeler, parce que, effectivement, avant d'appeler l'assistant de son collègue, j'ai pas réussi à avoir directement les assistants de Madame Boutonnet. Il n'y avait pas de répondeur, il n'y avait rien. J'ai appelé plusieurs fois à Bruxelles et ça a sonné dans le vide. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Et donc, j'ai vu sur les expressions publiques qu'elle avait fournies sur la question qu'elle était fermement en faveur de la directive. Donc, je l'ai appelé quand même, hein, au cas où, parce qu'il y avait quand même un argument percutant sur la question. Mais c'est quand même intéressant de voir, par exemple, c'est peut-être pas la peine d'appeler Jean-Marie Cavada. Je ne pense pas qu'on le fera changer d'avis.
Cavada, ça paraît assez compliqué, mais par rapport à ce que tu dis, c'est toujours intéressant de contacter des parlements. Alors, peut-être pas Jean-Marie Cavada, parce qu'effectivement, il a l'air vraiment sur une ligne très, très claire pour lui, en tout cas. Mais il y a pas mal de parlementaires, en fait, qui ne maîtrisent pas forcément tous les sujets, qui, des fois, vont suivre les consignes de groupe, mais sont ouverts au débat. On a vu ça sur d'autres sujets. Il y a des parlementaires qui peuvent changer d'avis. Ça existe. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut exister. Donc, il ne faut pas, effectivement, hésiter à passer du temps avec ces personnes-là. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, si on a le temps d'essayer d'un peu de comprendre le positionnement de ce parlementaire, on comprend mieux sa logique et on est capable de dialoguer, même si on n'est pas forcément d'accord avec sa logique. Donc c'est important, effectivement, de faire ce travail préparatoire avant d'appeler ou avant d'envoyer un courriel. Étienne ?
Par rapport à ce qu'on vous appelle aussi, hein, du coup, on a encore 2 jours et encore le temps d'avoir un impact. Et le fait d'appeler et d'envoyer aussi les courriels, c'est extrêmement utile en ce sens, hein, ça participe finalement à montrer aussi la réalité de cette opposition, que ce n'est pas seulement quelque chose de factice et construit par les GAFAM. Sur points clés, alors déjà noter que cette semaine, alors si vous allez, on va vous donner le lien vers la liste officielle sur le site du Parlement européen qui liste donc les parlementaires français, vous pouvez ensuite les trier par circonscription, par groupe politique, donc il y a plusieurs filtres que vous pouvez appliquer. Donc voilà, c'est thématique. Ils ont 2 numéros, donc Strasbourg et Bruxelles. Cette semaine, là, donc jusqu'à vendredi, ils sont à Strasbourg. Donc si vous cherchez à les contacter, choisissez bien le bon numéro. Parfois, effectivement, Marie-Christine Boutonnet, j'ai jamais réussi à avoir son bureau non plus. Alors je lui ai écrit, mais j'ai jamais réussi à avoir son bureau. Ça sonne effectivement dans le vide. Il y a des parlementaires, il faut réessayer parfois aussi. Hein. Moi, parfois, ça, j'ai mis 2-3 fois, mais j'ai réussi à avoir quelqu'un. Donc il ne faut pas hésiter et se décourager si ça ne répond pas. Et effectivement, il y a différents profils. Ceux qui sont déjà convaincus de la nocivité de ce texte, effectivement, bon, après c'est remercier la personne de son soutien et passer à la suite. Parfois, on tombe sur des gens qui sont très opposés. Alors c'est une manière de travailler un peu ses arguments, mais c'est vrai que ce n'est pas la peine d'y déployer une énergie folle. Et puis on tombe sur des personnes qui nous disent « Bon, alors mon député ou moi en tant que député, je vais soutenir la délégation ou mon groupe politique ». Mais on sent qu'il y a quand même un appétit, qu'il y a un intérêt pour les questions. Donc peut-être qu'on ne la convaincra pas directement sur ce point-là, mais c'est aussi un travail aussi de longue haleine. C'est une manière aussi de montrer ce qu'on défend et qu'il y a aussi une réelle mobilisation. Je trouve qu'il y a un argument, il a la portée qu'il a, hein, mais c'est aussi de rappeler sur ce texte que l'objet, c'est pas tout de suite de supprimer l'article, même si peut-être la personne peut avoir un regard favorable. Il s'agit de réouvrir simplement les débats et de réouvrir la possibilité d'amendement et de le faire ça en assemblée plénière. Donc, même si la personne est convaincue qu'il s'agit d'un bon texte, ce qu'on peut retrouver regrettable, il ne s'agit pas de le rejeter tout de suite. Donc, juste appeler réouvrir un peu le débat, je pense qu'il y a des parlementaires qui peuvent être sensibles à ce genre de choses.
Tout à fait. Pierre ?
Ben, je crois effectivement, pour compléter un petit peu, appeler un parlementaire, ça prend du temps. Il y a d'autres moyens d'action qui sont aussi... on peut passer par du courrier électronique aussi. C'est bien d'avoir toujours un petit peu déjà de se présenter pour dire d'un petit peu d'où on vient, d'expliquer un peu avec ses propres mots et suivant les angles d'intérêt de chacun... Pour présenter son propre argumentaire, parce que ça a toujours plus de poids. Enfin, mais même signer une pétition, qui est un truc un petit peu en boîte, c'est déjà utile, parce que ça fait quand même aussi... Donc après, chacun suivant son temps, mais toute action est utile, même si on n'a pas forcément l'envie ou la possibilité d'appeler un parlementaire. On peut appeler aussi des parlementaires... Si on maîtrise des langues étrangères, on peut appeler d'autres parlementaires. Ben, moi, j'avais appelé une députée luxembourgeoise, donc parce qu'en France, le sujet a l'air quand même relativement je dirais pas passer sous silence, mais ça n'a pas tellement buzzé en France. Curieusement, le buzz est plutôt venu des pays limitrophes et même éventuellement des États-Unis d'ailleurs. En France, il y a eu d'autres préoccupations, en France aussi avec les lois, la nouvelle loi de programmation militaire, etc. Il y a pas mal de choses qui se passent par ailleurs, qui ne sont pas forcément plus réjouissantes. Voilà, donc je pense que c'est... n'appelez pas forcément uniquement des parlementaires français. Ça peut être utile aussi d'appeler des parlementaires francophones belges, si vous en avez la possibilité, ou des parlementaires en anglais dans un peu n'importe quel pays, si vous avez un petit peu le courage de parler anglais à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai traduit mon article français initial pour l'utiliser en anglais également. Et donc voilà, c'est à toutes fins utiles.
Ouais, c'est important ce que tu dis, effectivement, c'est que les parlementaires restent sensibles aux appels ou aux messages de gens qui appellent de leur propre plein gré et en expliquant leurs problématiques. C'est-à-dire qu'ils sont, évidemment, les parlementaires reçoivent quotidiennement des notes de lobby, etc., de représentants d'intérêts, et c'est quelque part, bah voilà, c'est le boulot. Hein. Voilà, mais ils sont preneurs de gens, bah, effectivement, qui peuvent expliquer leurs problématiques quotidiennes avec leurs propres mots. Et donc, faut pas avoir peur de ne pas être une experte du sujet ou un expert du sujet pour appeler. On peut aussi simplement relayer des messages sur les réseaux sociaux, relayer les articles qui sont de qualité. Bon, il y a l'article de Pierre, donc effectivement, sur le filtrage, qui est relativement court et qui explique bien les trois méthodes de filtrage et leurs limites, et qui explique aussi en fait que ce que veulent mettre en place l'article 13, bah, quelque part, existe déjà, et que notamment bah, les artistes, ils reçoivent quand même beaucoup d'argent via les différentes plateformes. Par rapport à la mobilisation en France, on peut constater que la mobilisation commence à prendre, parce qu'on voit notamment des vidéos d'artistes français qui appellent, j'ai vu tout à l'heure... quel nom j'ai dit tout à l'heure, je me souviens plus. Cabrel, voilà, qui a fait une petite vidéo de quelques secondes disant « je soutiens l'article 13 ». Donc on sent bien qu'en fait, il y a une mobilisation qui prend. Ça veut dire aussi qu'il y a sans doute un écart très faible entre les en faveur de la directive et les contre la directive pour au Parlement européen, donc, parce qu'il y a une mobilisation, on voit bien. Donc ça, c'est important de se mobiliser. Et effectivement, c'est pas de se mobiliser, c'est pas agir contre les auteurs ou les artistes ou autres, au contraire, hein, c'est d'essayer de trouver une solution. Et clairement, bah, il a été démontré que l'article 13 et notamment la directive n'est pas la solution, donc il faut revenir sur le tapis. Sachant que ça sera peut-être le rôle de la prochaine Commission européenne de mettre en place ça, le prochain Parlement qui sera renouvelé l'an prochain. Donc n'hésitez pas à vous mobiliser, effectivement. Donc sur le site de l'April, il y a un certain nombre de références. Il y a la campagne aussi saveyourinternet.eu, sur lequel il y a des éléments en français. Et n'hésitez pas aussi à utiliser vos propres outils pour contacter des parlementaires. Alors Étienne, je crois qu'ils se sont d'ailleurs, certains se sont plaints de l'intense mobilisation, comme des parlementaires qui d'un coup trouvent anormal d'être contactés. Cette intense mobilisation, disant même finalement, c'est les GAFAM qui pilotent tout ça. Là-dessus, qu'est-ce que tu as quelque chose à dire ?
Bah, si ce n'est, alors peut-être que ça va dans la ligne que ce que tu disais, c'est que finalement, ils sentent, à mon avis, ils commencent à sentir cette mobilisation monter, ça leur fait peur, donc ils inventent. Et alors, pour peu, alors c'est vrai que moi, comme d'autres personnes, hein, je m'amuse sur les réseaux sociaux parfois, alors, c'est une manière de travailler un petit peu son argumentaire, à taquiner les défendeurs de l'article 13. Et on voit très vite qu'il n'y a absolument aucun argument de fond, ça tourne autour de deux choses. Vous êtes les méchants GAFAM. Qui voulait finalement enlever le pain de la bouche des artistes, et c'est uniquement ça qu'on court. Et il n'y a pas de filtrage, arrêtez vos fantasmes. En 2001, tout le monde crie au loup sur la directive, la précédente directive droit d'auteur, et Internet va très bien. Sauf que si Internet allait très bien, il n'y aurait pas besoin de tous ces textes-là qui défendent, donc on voit très vite les incohérences de tout ça. Voilà, donc oui, les GAFA, il y a l'April en France, il y a Framasoft, il y a La Quadrature, il y a Wikimedia France qui se lèvent. Je pense qu'on peut difficilement les critiquer d'être des soutiens de ces silos technologiques. Hein. C'est le cœur de notre action, c'est de lutter contre justement le modèle des GAFA. Il y a Roberto Di Cosmo, qui est un cadre du logiciel libre. D'ailleurs, tout le monde reconnaît la qualité de son software, de son projet Software Heritage, donc une sorte d'archive universelle des codes. Donc vraiment un modèle sur le partage et sur la protection d'une connaissance commune. Tous les pionniers et pionnières que je citais tout à l'heure, donc, et au rapporteur spécial des Nations Unies, il me paraît quand même créatif d'imaginer qu'il serait au service... des GAFA. Mais oui. De manière générale, on parle de fake news, donc, et pour moi, quelqu'un qui fait appel à l'argument du fake news se disqualifie automatiquement et prouve finalement qu'il n'a aucun argument à avancer.
D'ailleurs, sur la page qui listera les références de l'émission sur le site de l'April, vous retrouverez un lien vers effectivement le rapport de ce rapporteur spécial Liberté d'expression, et vous verrez qu'effectivement il est très clair. Donc au rapporteur spécial de l'ONU, donc voilà, c'est on peut pas dire qu'il soit à la solde de qui que ce soit. Au contraire, il exprime une problématique très 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 claire. On a vu tout à l'heure que Wikipedia.it, donc le Wikipédia italien, a fermé ses portes, donc a mis un bandeau en fait, comme il y a quelques années contre d'autres batailles sur la neutralité du net. Donc ça montre bien quand même que ces gens-là sont très très inquiets, et on ne peut pas nier l'importance de Wikipédia. On parlait aussi de la prise de débat qui était peu présente en France, tu disais. En fait, ce soir, vous avez une façon d'agir aussi, c'est que sur une autre radio, un peu plus connue que Radio Cause Commune, mais c'est temporaire, hein, c'est sur France Inter. À 19h15, vous avez l'émission Le Téléphone Sonne, qui sera consacrée donc à la révision de la directive droit d'auteur, avec deux invités, donc Pascal Durand, qui est un eurodéputé d'Europe Écologie Les Verts, qui est contre la directive, l'article 13, et Virginie Rosière, qui est pour la directive droit d'auteur. Donc je vous rappelle que le principe du téléphone sonne, c'est que vous pouvez appeler pour poser des questions, pour exprimer une inquiétude. Donc il faut être relativement court, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas discuter pendant 5 minutes, mais si vous exprimez une prise de position claire et une question claire, vous avez une chance de passer. Donc je vous encourage à appeler le numéro de France Inter, que je n'ai pas en tête, mais vous trouverez ça facilement, sinon à vous brancher sur France Inter à 19h15. On va bientôt passer à la suite avec une pause musicale, mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, peut-être Pierre ou Étienne ?
Peut-être un petit mot. Ouais. Moi, effectivement, comme Étienne, j'ai trouvé assez cocasse d'être inclus comme suppôt des GAFAM avec tous les libristes. Quand on connaît l'historique d'Internet, c'est assez comique. Et par ailleurs, effectivement, il y a une grosse campagne médiatique en ce moment par les défenseurs de l'article 13 et 11, et j'ai pas vu de couverture équivalente dans les médias généralistes, disons, en faveur, enfin sur l'autre point de vue. Donc, ce sont des gens qui ont porte ouverte chez les grands médias. Il y a eu une interview de Jean-Michel Jarre dans Le Monde. Il y a eu des articles dans Les Échos, dans Le Figaro, et il y a eu par contre côté anti-article 13, il y a eu plutôt c'était plutôt la presse tech qui a couvert ça, la presse généraliste s'en est relativement peu préoccupée.
Alors, faut rappeler que la presse généraliste est plutôt en faveur de l'article 11.
Sans en parler beaucoup,
ouais. Mais ce qui peut expliquer en fait aussi ce soutien finalement à la directive, ils défendent aussi leur intérêt, sans voir en fait que c'est pas forcément l'intérêt qu'ils défendent, ils ont pas compris le fond du problème. Enfin bon, ce qui peut expliquer cela. Étienne, est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Peut-être juste de rappeler, alors nous on parle bien sûr qu'il y a un enjeu, il y a une question fondamentale de comment collectivement rémunérer la création, comment on assure une équitable rémunération des personnes qui produisent en ligne, tout ce qui peut être avancé en faveur de l'article, de ce qui est censé être justifié l'article 13. Ce qu'il faut rappeler, c'est que justement, c'est en promouvant un Internet libre et ouvert, un Internet neutre, un Internet acentré, c'est en promouvant ces choses-là qu'on promouvera la création. Internet est un formidable outil de liberté, et la liberté, la création, la créativité vont main dans la main. Donc il me paraît complètement absurde et incompatible de vouloir protéger la création en censurant. Donc ne serait-ce que là, je pense qu'il y a le vice premier de ce texte-là réside ici. Il faut un débat de fond qui dépasse le droit d'auteur, qui promeut un Internet décentralisé. Et tu citais Pierre Tube, donc l'initiative qui serait une alternative à YouTube, mais basée sur du Sali, basée sur un réseau accentré. Et ben, c'est une initiative qui serait mise à mal par l'article 13. Donc il faut absolument que cet article saute.
Donc n'hésitez pas à aller sur le site april.org, sur aussi saveyourinternet.eu. Alors, on est à la radio, dommage, vous ne voyez pas le t-shirt que porte Pierre Bessac, mais c'est marqué « I am Director Internet France, deal with it ». Donc je suis le directeur de France de l'Internet, faites-en ce que vous voulez, je ne sais plus comment se traduit « deal with it ».«
Débrouillez-vous », je sais. «
Débrouillez-vous », voilà. En tout cas, voilà, nous avions donc le directeur d'Internet France est contre l'article 13, donc tenez-le-vous pour dit.